Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères.
Radio U, textuel, lire pour vivre mille vies.
J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses.
Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront.
Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la
J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un.
Au chapeau de feutre.
Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence.
Accoudée au bastingage.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, parmi tous les mots, il y en a que j'aime particulièrement. Ce sont les noms propres, vous savez, ceux qu'on entend aux informations. Ça me fait rêver. J'entends par exemple beaucoup en ce moment parler de Philippe Bernard. Gérard Philippe, non. Je n'arrive jamais à me rappeler ce nom à celui-là. Bernard Gérard? Non. Il faut que je pense à Balladur. Balladur, c'est rigolo comme nom. Bala, dur, mou et dur. Édouard Philippe, c'est ça. Alors lui, il n'a vraiment pas de chance, lui. Il n'est pas très poétique, son nom. Heureusement, il y en a qui ont plus de chance. Donald Trump, un canard avec une trompe d'éléphant. Vladimir Poutine, un prince avec une assiette de frites pleine de crème. Barack Obama, une grande maison blanche, solide. Abu Nidal, c'est juste très joli. Boko Haram, Al-Murabitoun. Au début, j'entendais Amor, Amoura, Bitoun. Ansardin, les hommes dents de sardine. Je voyais des hommes avec des dents de sardine. Saddam Hussein, c'est très chevaleresque. Fidel Castro, à la fois fidèle et castré. Haïlé Sélassié, c'est du solide. Latakié, c'est d'où partent les bombardiers. Et le meilleur pour la fin, Amin Dada. Là, je crois qu'on ne peut pas faire non plus sympathique pour un dictateur sanguinaire. Mais en vrai, tous ces noms sont bien d'autres choses dans le vrai monde. Alors, je vous invite dans le vrai monde. Je vais vous lire les premières pages d'un roman de Laurent Godet intitulé « Écoutez nos défaites ». Tout ce qui se dépose en nous, année après année, sans que l'on s'en aperçoive. Des visages qu'on pensait oublier, des sensations, des idées que l'on était sûr d'avoir fixées durablement, puis qui disparaissent, reviennent, disparaissent à nouveau, signe qu'au-delà de la conscience, quelque chose vit en nous qui nous échappe, mais nous transforme. Tout ce qui bouge là, avance obscurément, année après année, souterrainement, jusqu'à remonter un jour et nous saisir d'effroi presque, parce qu'il devient évident que le temps a passé et qu'on ne sait pas s'il sera possible de vivre avec tous ces maux, toutes ces scènes vécues, éprouvées, qui finissent par vous charger, comme on le dirait, d'un navire. Peut-être est-ce cela que l'on nomme sagesse, cet amas de tout, ciel d'Afrique, serment d'enfant, course-poursuite dans la médina de Tanger, visage de Chavine, la combattante kurde aux lourdes tresses noires, tout, les noms utilisés, les rendez-vous pris, les hommes abattus et ceux protégés. Je ne peux pas, moi, sagesse de quoi? Cet amas vivant ne me sert pas à être plus clairvoyant. Il ne me pèse pas non plus. Non, c'est autre chose. Il m'aspire. Je sens de plus en plus souvent mon esprit invité à explorer ce pays intérieur. La foule en colère sur la route entre Misrata et Sirte, la peur que j'essaie de contrôler mais qui monte en moi, le café blanc de Beyrouth, le bruit si particulier des armes lourdes dans les faubourgs de Benghazi au milieu d'une armée rebelle en débâcle, ces instants si nombreux où j'ai cru être perdu, l'ivresse ensuite, pour moi seul, d'être encore en vie, et personne pour le savoir, pour partager ce bonheur, tout cela, et les avions qui déchirent le ciel du Mali pour aller bombarder des positions que je viens de leur transmettre. La chaleur, les moments étranges de transit entre les aéroports, entre deux zones de guerre où je déambule dans les duty-free sans pouvoir rien acheter comme si cet univers-là, celui des cartouches de cigarettes sans taxes, des bouteilles de whisky en pyramide, n'était plus le mien. Tout cela est devenu un monde entier qui vit, se tord, fait ressurgir parfois, au milieu de la nuit, une image. Les gamins qui jouent à faire éclater les balles trouvées par terre dans les quartiers chiites de Beyrouth, la douceur d'une soirée dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à Bamako, tout cela m'invite, comme s'il y avait dorénavant un autre monde possible, à explorer, à comprendre celui que je porte en moi. Et je le sens aujourd'hui, tandis que je marche le long du quai en direction de Bellevue Platz. Il y a en moi quelque chose de différent que je ne sais pas nommer, qui s'agrandit et m'aspire. Je sais que cela ne se voit pas encore. Je sais que, dans quelques heures, face à Auguste, je serai celui que j'ai toujours été. Hassem Graieb. Je porterai à nouveau ce nom qui n'est pas le mien, mais auquel je me suis fait. Hassem Graieb, agent dans les services depuis plus de 10 ans. Hassem Graieb, que les jeunes recrues, lorsqu'il m'arrive d'en croiser boulevard Mortier, à Paris, lors d'une cérémonie officielle, regardent avec déférence parce que, sans savoir exactement ce que j'ai fait, ils connaissent la liste des terrains d'opération où l'on m'a envoyé. Afghanistan, Sahel, Libye, Irak. Et cela suffit à les impressionner. Hassem Graieb, qu'ils appellent entre eux un chasseur. Et ils ont raison. J'ai mené tant d'opérations durant toutes ces années que je suis devenu un chasseur, tueur de la République qui traque sans cesse des hommes nouveaux. Pour eux tous, je serai celui-là encore, parce qu'à leurs yeux, Hassem Graieb vit toujours, identique à lui-même, mais je sais, moi, que quelque chose grandit qui me change et s'ouvrira peut-être un jour comme une immense gueule intérieure. Et qui sait alors ce que je ferai. Lorsqu'il m'a demandé d'où j'étais et que j'ai répondu « irakienne », j'ai vu dans son regard qu'il connaissait mon pays. Il a pris ensuite un air étonné, a prononcé une phrase, une de celles que j'entends lorsque je décline ma nationalité. Ce n'est pas trop dur ? Mais il l'a fait justement pour que cela paraisse anodin, je l'ai senti. Dans son regard, juste avant, il connaissait mon pays et ce simple mot « irakienne » avait suffi à le transporter là-bas, j'en suis sûre. Plus tard, dans la soirée, tandis que nous étions encore au bar, il est revenu sur le sujet, il a demandé « Où en Irak ?» J'ai dit « Bagdad ». Et là encore, j'ai vu qu'à la seule évocation du nom de ma ville, il partait là-bas en esprit. Il s'en est moins caché. Il a gardé le silence longtemps, et je n'ai rien dit. Puis il a eu un sourire doux et j'ai su que nous monterions dans sa chambre. J'ai su que nous ferions l'amour. Pas seulement à cause de Bagdad, mais parce qu'il acceptait de ne plus jouer à celui qu'il ne connaissait pas, parce que la seconde fois, il n'avait pas posé une de ces questions que l'on me pose si souvent. « Et tu retournes encore là-bas ?»« Non, Il était juste resté avec les images de cette ville qui était en lui et il avait pris son temps. J'ai tout de suite su qu'il était militaire ou quelque chose comme ça. Je le lui ai dit, là, au bar. Avant qu'il ne me prenne délicatement par la main, comme l'aurait fait un lycéen qui veut quitter le banc avec son amoureuse pour chercher un endroit plus discret. Dans cette salle d'où l'on voyait la limate couler et où nous étions les derniers, je lui ai dit « Militaire, n'est-ce pas ?» Et il a ri. Il n'a pas nié. Il a même dit « Ça se voit tant que ça ?» Puis une blague peut-être. Il faut que je change de métier alors. J'ai su parce qu'il a accepté durant toute la soirée de ne rien dissimuler et je n'ai pas posé de questions auxquelles il n'aurait pu répondre. Il a souri lorsque j'ai dit « militaire ». Il a pris le temps de penser au paysage d'Irak qu'il a en lui lorsque j'ai dit « Bagdad ». Il n'a pas menti. Alors je l'ai suivi et nous sommes montés. J'ai trébuché, je crois, dans le couloir du troisième étage. La moquette épaisse a étouffé les bruits, mais nous avons ri. J'avais beaucoup bu, et lui aussi. J'ai dû mettre ma main devant ma bouche. Dans l'autre, j'avais une de mes chaussures. J'avançais de guingois et lui riait. Sa main, là, qui me tenait par la taille, je l'ai aimée d'emblée. Je ne sais pas depuis combien de temps je rencontre des hommes dans les bars des hôtels. À Paris, à Genève, à New York, ce n'était pas le premier. J'ai commencé après ma séparation d'avec Marwan. Cela en surprend certains, parfois, que je sois irakienne. Comme si cela empêchait le désir du corps et le désespoir besoin d'aimer. Marwan aimait bien citer Éluard. C'est une des choses que j'ai gardées de lui. Et le goût du sexe aussi, peut-être. Je me souviens lorsque nous faisions l'amour à Alexandrie, dans cet appartement qu'il louait, face à la mer, pressé de profiter de ces heures qu'il avait volées à sa vie, à sa femme, au Caire, au musée. Marwan, que j'avais un peu pour moi toute seule, quelques heures par mois, ce qui faisait peut-être quelques jours par an. J'ai aimé ces instants-là, je me croyais libre. La poésie, l'amour et les repas pris à des heures incongrues, dans la rue, sur une terrasse du port, à l'heure où les autres font la sieste ou boivent un café. J'ai aimé cela. Ensuite, il y avait la solitude, toujours, et l'attente, jusqu'à ce qu'il me quitte. Cela m'a surprise. J'étais persuadée que c'était moi qui partirais. Je me souviens de ce jour-là. Il était arrivé en retard, les sourcils froncés. Je n'ai pas vu tout de suite qu'il n'y aurait pas d'étreintes, de promenades amoureuses, qu'il n'y aurait qu'un échange sec, rapide, et que Marwan était venu cette fois pour repartir. C'est après, oui sûrement, que j'ai commencé à dire oui aux hommes dans les hôtels. L'air est frais et vivifiant. J'aurais dû marcher d'un pas vif, comme je l'ai fait si souvent en des occasions semblables. Je suis sur le point de retrouver Auguste, mon officier traitant. Il m'assignera une nouvelle mission. Tout va reprendre. Je serai Hassem Graieb ou un autre. Je serai français d'origine algérienne ou tunisienne ou libanaise. Mille vies, les unes après les autres, et le danger, toujours, pour les rendre intenses. Mais je marche lentement, et ce qui me remplit l'esprit à cet instant, ce sont les petits cris d'excitation que ne pouvait s'empêcher de pousser le joueur d'échecs de Lindenhof. Pourquoi est-ce que je repense à lui? Je ne sais pas. Je l'ai regardé longtemps hier, pendant plus d'une heure. Je suis restée assise sur un banc face aux deux grands échiquiers que la municipalité de Zurich a installés dans ce jardin qui domine la ville et d'où l'on voit, comme les soldats romains le voyaient déjà, couler la limate. J'ai regardé cet homme s'agiter en tous sens, contenant sa folie pour pouvoir jouer, ne pas perdre le fil de la partie. Je suis restée longtemps et j'ai fini par entendre son nom prononcé par les autres, ses adversaires successifs, car il y en a eu beaucoup, étudiants, notables, retraités, qui tous finissaient par laisser leur place, dépités d'avoir perdu si vite. Ferruccio, Der Verrückte. Pendant des heures, oui, de façon hypnotique, j'ai scruté ses mouvements d'épaule, ses grimaces de bouche, la façon qu'il avait de hausser les sourcils et de se pencher, comme si on lui avait porté soudainement un coup au bas-ventre. Il était fou, Ferruccio, et ne tenait pas en place, faisait des grands pas le long du damier au sol où tripotaient les pièces de bois, hautes jusqu'aux genoux, comme s'il dirigeait une armée vivante. Ferruccio, c'est lui que j'entends tandis que je marche. Et je pense aussi à la chambre d'hôtel que je viens de laisser derrière moi, baignée d'une belle lumière du matin, avec le lit aux draps défaits, cette chambre qu'elle a quittée avant moi. Et ce n'est que maintenant, le long de la limate, approchant du dernier pont avant le lac, que je me souviens de lui avoir donné rendez-vous là, à Bellevue Platz, cet endroit où je dois retrouver Auguste pour qu'il me présente à un homme des services américains, mais une heure avant. Et je ne parviens pas à savoir pourquoi j'ai fait cela, pourquoi ce rendez-vous. Ferruccio, dans mon esprit, continue d'aller et venir, de tourner, mangeant les pièces de ses adversaires et poussant de petits cris aigus, sans que l'on sache s'il redoute davantage la défaite ou la solitude qui suivra la victoire, lorsque le notable ou l'étudiant, dépité comme les précédents, s'éloignera avec un geste d'impuissance, lui reconnaissant d'être le plus fort et le laissant là, invaincu, mais seul. Il joue bien, très bien. Il est vif et clairvoyant, mais il a toujours sur le visage une anxiété qui lui mord les traits, comme s'il était désolé de gagner, comme s'il espérait qu'on le batte enfin et que cela apaise les tics qui le rongent et fasse taire le fracas intérieur qu'il essaie de contenir. À moins que ce qu'il espère vraiment soit une partie qui ne finisse jamais, quelque chose qui l'occupe tout entier, alors enfin le monde serait congédié et il serait soulagé, lui, le fou. Ne resteraient que les pièces du jeu, les diagonales, les coups d'avance, les pièges, les sacrifices, l'intelligence pure, et Ferruccio der Verrückte, celui qui joue la chemise débraillée, torse nu parfois, celui qui porte une barbe hirsute et se parle à lui-même en s'insultant, n'existerait plus. Il ne resterait que l'intensité de cette chose qui se construit à deux, qui n'a plus rien à voir avec un combat, mais plutôt avec la recherche d'une forme de perfection, comme une trouvaille scientifique. La partie infinie, celle pour laquelle le jeu a été conçu. Je repense à Mariam que j'ai rencontrée hier, à la nuit que nous avons passée ensemble dans l'accord tacite que personne ne demanderait à l'autre qui il est vraiment, ce qui l'occupe et quelle est sa vie, nous contentant l'un et l'autre de nos deux prénoms, Hassem et Mariam, et de nos deux corps. Pourquoi lui ai-je donné rendez-vous ce matin ? Je me souviens de l'épaisseur de ce cheveu noir, lisse, qui brillait dans la pénombre. Je me souviens de ses lèvres qui avaient parlé avec gourmandise lorsque nous étions au bar, puis qui s'étaient entrouvertes plus tard avec volupté, laissant s'échapper dans cette chambre qui donnait sur les eaux calmes du fleuve un soupir de ravissement, moment pur qui rachetait tout, les errements, les fatigues. Ses lèvres entrouvertes pour laisser passer le souffle, heureux, immédiat, de la jouissance des corps et l'oubli de l'esprit. Et surtout, je me souviens maintenant de ce que j'ai senti en moi et que je dois bien appeler une timidité, nouvelle, étrange. Cette hésitation à l'instant de me déshabiller, l'a-t-elle vue ? Il m'a semblé que non. Ou plutôt qu'elle l'acceptait, qu'elle voyait sur mon corps les fêlures, les accros, mais que cela ne la surprenait pas. Elle faisait avec, comme elle faisait avec les doutes et les fatigues de l'esprit. Nous nous sommes approchés l'un de l'autre sans gêne, mais avec égard. Et c'est peut-être cela, au fond, qui m'a poussée à lui donner rendez-vous ce matin. Je ne vois rien d'autre. Je vous ai lu « Écoutez nos défaites » de Laurent Godet, paru chez Actes Sud en 2016.
Textuel, lire pour vivre mille vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe.